9h midi, la grande matinée Sud Radio, présentée par Marc Leval.
Merci de nous rejoindre, merci d'être là, 10h midi, la grande matinée, des sujets, des invités que j'ai le plaisir de recevoir sur l'antenne de Sud Radio avec des ouvrages aux éditions Enfortas. On va parler du livre de Jean-José Boutaric. Vous savez quoi? Ce livre, c'est incroyable. C'est très étonnant, je vais vous dire pourquoi, parce que quand je vais vous donner tout simplement les titres de Jean-José Boutaric, il est médecin, anesthésiste, réanimateur au SAMU, historien avec un doctorat en sciences historiques et philologiques de l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. Il est écrivain. Il est secrétaire perpétuel de l'Académie Littrée, vous savez, qui décerne tous les ans un prix. Et il est président d'honneur du groupement des écrivains de médecins. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre en rapport avec le SAMU et il s'est posé une question, mais incroyable, si le SAMU avait existé à l'époque de, tiens, par exemple, qui est-ce qu'on pourrait citer? À l'époque de Cléopâtre, de Charles VIII, ou encore de Socrate, ou tout simplement du président des États-Unis, Abraham Lincoln. C'est un bouquin incroyable, et quand j'ai commencé à le lire, j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Au moins sur les deux premiers chapitres, j'ai dit, attendez, je ne comprends pas et tout. Et vous allez voir, c'est surprenant, c'est très intéressant, c'est même drôle parfois, et il y a des situations improbables où on se dit que voilà, on va aller voir Henri IV, et comment on aurait pu sauver Henri IV si le SAMU avait existé à l'époque. Je reçois Jean-José Boutaric, le docteur, dans un instant sur l'antenne de Sud Radio, entre autres.
La grande matinée Sud Radio. L'esprit libre.
Et si l'on parlait ce matin d'histoire en s'amusant? Voilà, je marque volontairement un temps d'arrêt, vous allez comprendre. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est le titre, c'est beau, bah c'est magnifiquement bien écrit. L'histoire en s'amusant avec le docteur Jean-José Boutaric. Bonjour docteur.
Bonjour.
Même si vous êtes à la retraite, je peux vous appeler docteur.
Ah ben, bien sûr, on l'est jusqu'au bout, hein, docteur. D'ailleurs, quand je peux, j'exerce. Je distribue mes soins quand des gens qui me le demandent, mais gratuitement, bien sûr.
Médecin, anesthésiste, réanimateur au SAMU. Alors déjà, ça devrait vous remplir une vie, mais vous, visiblement, c'était pas suffisant dans votre emploi du temps.
Ça m'occupait beaucoup quand même.
J'imagine, oui. Et alors, quand j'ai évoqué, bien sûr, les différentes occupations que vous avez, puisque vous êtes également historien, je le disais, avec un doctorat en sciences historiques de philologique. J'ai demandé un petit peu à l'ensemble de la rédaction, à ceux avec lesquels je travaille, ils m'ont dit, tout le monde m'a dit oui, j'ai entendu parler. Mais personne n'a été capable de me donner la définition exacte de philologique sans aller sur Internet.
Eh bien, vous voulez la définition?
S'il vous plaît.
Alors, je suis pas le dictionnaire, hein, je peux pas peut-être je vais me tromper. Non, la philologie, si vous voulez, c'est l'étude de l'origine du langage, de la langue, des différents la signification des différents mots.
C'est ça, c'est
mais ce n'est pas le plus important dans le, si vous voulez, c'est le titre général.
Bien sûr.
J'en ai fait de la philologie un petit peu, mais c'est surtout de l'histoire que je faisais, et en particulier, de l'histoire de la médecine.
Absolument.
Et de l'histoire des sciences.
Exactement. Parce que vous rendez hommage, d'ailleurs, et c'est comme ça que vous commencez dans votre ouvrage, l'histoire en SAMU, avec le SAMU, bien sûr, en s'amusant. Vous rendez hommage à ceux que vous appelez les SAMUtards. C'était vos maîtres, les pionniers au départ.
Oui, absolument. D'abord, j'ai fait ma thèse, je peux pas vous dire quand parce que je veux pas dire mon âge, vous comprenez. J'ai fait ma thèse, c'était une des premières thèses sur les ambulances qu'on appelait, je sais pas comment les appeler, ça s'appelait pas encore le SAMU, les antennes de réanimation, je crois.
Voilà, antennes de réanimation et les mises en condition d'évacuation.
Et voilà, alors ça c'est mise en condition d'évacuation, c'est pour l'armée, c'est
absolument,
ça. C'est l'armée qui d'ailleurs, à la suite de les campagnes d'Indochine et puis d'Algérie, qui a finalement été l'initiatrice des SAMU.
Oui. Allez-y, je vous en prie.
Oui, et ensuite, j'ai quitté l'armée, et j'ai passé plusieurs années, et j'ai démissionné assez tôt, et puis je suis rentré dans le service du professeur Huguenard, qui lui venait qui est en train de constituer le SAMU du Val-de-Marne.
Absolument. Alors les SAMUtards, on l'a dit, hein, à l'époque les pionniers des services d'urgence c'était l'antenne de réanimation et puis les services de santé de l'armée pendant la guerre d'Algérie ou d'Indochine que vous évoquez également, c'était la mise en condition d'évacuation, qu'on appelle.
Voilà.
Et alors ce que je ne savais pas, j'ai appris dès les premières lignes, c'est que le fameux, le sigle, le petit logo du SAMU, il vient de Toulouse.
Absolument, c'est le professeur Larrand. Professeur Larrand était un ami du professeur Huguenard. Ce sont les grands fondateurs. Bon, je vais pas citer, je pouvais pas citer tout le monde.
Tout le monde, il y a du monde.
Dans,
ouais,
le,
ouais.
dans tous les pionniers. Mais le professeur Larrand, effectivement, était un Toulousain.
Alors, vous avez écrit ce livre, donc l'histoire en s'amusant, pour rendre hommage d'abord à ceux que vous appelez donc les samutards, hein, nos maîtres, hein, tous ceux qui ont commencé. Mais vous dites que visiblement, sur le plan des techniques, sur les grands principes de la médecine et de la réanimation en particulier, ça n'a pas énormément changé.
Les termes n'ont pas changé. Il y a eu beaucoup de discussions à l'époque pour savoir comment l'appeler d'ailleurs, puisqu'il y avait le terme d'antenne de réanimation. C'était un chirurgien de Marseille qui avait lancé un petit peu ce terme, mais ça n'a pas pris. Et je crois que c'est Monsieur Larrand avec Monsieur Huguenard et puis d'autres qui ont mis au point le terme SAMU.
Alors quand vous parlez de dommages à ceux et celles qui ont créé le SAMU, vous allez même, ça va jusqu'au Dr House, hein, que l'on voit la série télé.
Oui, écoutez, je n'ai pas tellement regardé le Dr House, mais il y avait des émissions de télé, je ne sais pas si c'est le Dr House, je ne pense pas. Monsieur Huguenard m'a nous dit une fois que ce n'était pas mal fait du tout. La seule chose, c'est que dans le Dr House, ça accumule les catastrophes.
Ouais, c'est vrai.
Dieu merci, on ne sait quand même pas toujours comme ça. C'est quand même un peu
pour
ça.
Pour scénariser ces séries, vous savez qu'ils font appel très régulièrement à des vrais médecins, hein, qui plus est. Hein.
Oui. C'est pas mal fait, hein. Mais si vous voulez, les gestes de base qui datent donc d'une trentaine d'années, c'est-à-dire l'intubation, la mise sous ventilation artificielle et puis les enregistrements électrocardiographiques, finalement, c'est vraiment la base de la réanimation et la pose de cathéter. Alors maintenant, il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués en appareillage, mais finalement, la base n'a pas changé. Et cependant, depuis 30 ans, c'est déjà un peu dans le domaine de l'histoire de la médecine.
Absolument. Docteur, alors écoutez bien, vous qui êtes de l'autre côté en ce moment et qui devez sans doute vous poser la question de savoir mais quel lien peut-il y avoir entre l'histoire et le SAMU. Et vous allez voir, c'est incroyable. Vous savez ce que j'ai fait, docteur? J'ai lu, pour commencer, donc le premier chapitre, je l'ai lu deux fois. Lu deux fois parce que je me suis dit, mais où va-t-il? Qu'est-ce qu'il cherche à nous raconter? Et en fait, il faut simplement, pour faire simple, il y a trois angles dans votre livre. Le premier, c'est que c'est un voyage dans le temps.
Oui, c'est ça, oui.
Hein, c'est un voyage dans le temps. Et... alors, vous allez écouter attentivement parce que les trois angles, les voici, vous allez me dire si j'ai bien résumé. C'est 1. La vie du SAMU au rythme d'une équipe dont on va parler, qui est fort sympathique d'ailleurs. Deuxième angle, c'est l'intervention du SAMU dans un voyage dans le temps au travers de personnages historiques. Et le troisième angle du livre, c'est la vraie histoire de ces fameux personnages.
Voilà, vous avez fort bien résumé. Hein. Sauf qu'à la fin, il y a une explication. Logique.
Bon, absolument. Absolument. Mais enfin, vous êtes allé chercher très très loin l'histoire, là, quand même. Parce que vous la réécrivez à votre manière. Hein.
Attendez, il y a deux choses. Il y a la façon de réécrire l'histoire. Alors là, j'ose pas trop le dire parce que les historiens purs et durs aiment pas bien qu'on réécrive l'histoire. Je me cache un peu des fois parce que c'est pas très orthodoxe. Mais par contre, vous savez, donc il y a le côté technique moderne et puis il y a toujours un historien qui dit avant, oui, c'est bien ce que vous avez fait, vous avez ranimé, etc. Bon, mais en fait, voilà comment ça s'est passé. Et alors là, je m'appuie évidemment sur des documents qui sont, ce dont on dispose à l'heure actuelle.
Alors, on va parler de cette équipe de médecins qui se trouve donc au cœur du SAMU. Ils sont assez, c'est assez joyeux dans l'ensemble. Il y a même des petites histoires parfois un peu coquines. Il y a des petites relations amoureuses parfois dans cette équipe.
C'est normal, vous savez. Moi, j'écris beaucoup de bouquins et je considère qu'il faut toujours mettre un petit peu. Bon, d'ailleurs,
piment.
On m'a dit. Écoutez, le premier bouquin que j'ai écrit, on m'a dit t'as pas mis assez de. Enfin, je dis de fesses.
Oui.
Alors, il faut toujours en mettre un peu. Ça distrait. Puis, qu'est-ce que vous voulez, ça mène le monde. Hein.
Alors, docteur, l'histoire, en fait, la trame de votre ouvrage qui s'appelle l'histoire en s'amusant. C'est tout simplement une équipe du SAMU et cette question, si le SAMU existait à l'époque de personnages illustres, comment les choses auraient pu se passer? C'est ça.
Voilà. Alors, d'autre part, il y a, comme on dit dans les articles médicaux, un critère d'inclusion. Il fallait que mes personnages soient décédés dans l'heure qui a suivi l'agression.
Ouais.
parce qu'il faut quand même laisser le temps au SAMU d'arriver. Ouais. Sauf pour Henri IV, là j'ai un peu quand même poussé, parce qu'il avait une plaie de l'artère pulmonaire, et alors ça saigne énormément. Mais enfin bon, quand même, ils utilisent une technique, ouais. Ils amènent Henri IV justement à la pitié, et là le professeur Cabrol, qui est un anagramme du professeur de professeur de, je l'appelle l'Aubrac, qui est un anagramme de professeur Cabrol, ouais. Donc le sauve. Et alors j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois le professeur Cabrol, qui est un homme absolument extraordinaire,
éminent,
et puis d'une gentillesse, d'une sensibilité, et puis d'une compétence. Bon, je vais pas ici faire l'éloge du professeur Cabrol, mais je vais donner mon bouquin, et je lui ai dit: monsieur, je me suis permis de modifier votre nom, mais c'est vous qui accueillez Henri IV. Et monsieur Cabrol m'a dit: je suis très très fier d'avoir sauvé Henri IV.
Ça, c'est extraordinaire. Le SAMU, l'histoire du SAMU, donc racontée par le docteur Jean-José Boutaric. On va faire une première pause, docteur. Et si le SAMU existait à l'époque d'Henri IV, tiens, de Cléopâtre, de Charles VIII, de Socrate ou encore d'une certaine Sissi impératrice ou d'un président des États-Unis à l'époque d'Abraham Lincoln. C'est passionnant, c'est incroyable, c'est un vrai voyage dans le temps avec les techniques des années 2000, les techniques de la médecine du SAMU. On va détailler tout cela dans un instant. Une pause et à tout de suite, docteur.
La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre.
Et c'est le docteur Jean-José Boutaric qui est mon invité. Médecin anesthésiste, réanimateur au SAMU. Autant vous dire qu'il a vécu toutes les situations. On a souvent, docteur, l'habitude de dire, vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres.
Oui, ça, c'est évident.
Toutes les situations, j'imagine.
Oh, toutes, non, vous savez, parce qu'en médecine, on ne voit jamais tout. On progresse d'année en année, mais toutes, ce serait très prétentieux de le croire. Mais par contre, oui, on assiste
beaucoup
à
de
des
choses.
Cas importants. J'ai pas été qu'anesthésiste, d'ailleurs, j'étais aussi médecin généraliste, j'étais médecin dans l'armée de l'air. Enfin, j'ai fait une carrière médicale assez variée.
Assez variée et riche, donc, par conséquent. Donc, vous connaissez...
Intellectuellement.
Intellectuellement, j'ai bien... Ça, c'est un autre débat, un autre sujet.
Voilà.
Je pense que c'est l'actualité, comme toujours. Bien, encore aujourd'hui, c'est l'actualité.
Toujours.
Toujours. Les honoraires des médecins, ça pose évidemment pas mal de problèmes, entre autres, et les moyens mis à la disposition de la médecine, bien sûr.
Voilà, mais ça, c'est un autre, comme
vous dites. C'est un autre débat. Alors, l'histoire en s'amusant avec vous, docteur, et ces personnages de l'histoire que tout le monde connaît, de Socrate à Charles VIII, de Cléopâtre à Henri IV, l'impératrice Sissi, vous allez voir, c'est incroyable cette histoire. Et puis, Henry Lincoln, par exemple, président des États-Unis. Et vous vous êtes posé, donc, pour ceux qui arrivent à l'instant, la question de se dire si le SAMU existait à leur époque, comment est-ce qu'on aurait pu les sauver? D'abord, est-ce qu'on aurait pu les sauver? Et si oui, de quelle manière? Alors là, vous avez revisité un petit peu l'histoire, même si vous aviez évoqué auparavant que les historiens n'aimaient pas trop qu'on touche à la réalité des faits de l'époque. Mais enfin bon, il a fallu quand même que vous racontiez certaines choses dans le détail. Alors l'équipe du SAMU, on va les présenter parce que vous leur avez donné des noms et des prénoms. Est-ce qu'il y a du vécu avec des personnages qui pourraient se reconnaître aujourd'hui?
Non.
Non, aucun.
Enfin, oui, si vous voulez. Vous savez, j'écris pas mal de bouquins et l'imagination transforme ce que l'on veut écrire. Ça aurait pu, mais c'est pratiquement, non, c'est grosso modo, c'est imaginaire.
Ouais.
Alors, beaucoup de gens croient d'ailleurs que une des petites infirmières anesthésistes, c'est ma femme. Ma femme est infirmière anesthésiste, mais elle n'était pas au SAMU. Ouais. Non, ça, c'est pas du tout ma femme. Mais ça aurait pu.
Est-ce que ce ne serait pas la petite Caroline?
Eh ben oui, c'est ça, voilà,
c'est ça,
Caroline.
Hein, c'est Caroline dans votre livre.
Alors, c'est peut-être un fantasme, j'espère que ma femme n'écoute pas. Peut-être que Caroline, j'ai connu une jeune infirmière, mais en tout bien, tout honneur.
Alors, pour ceux qui, évidemment, n'ont pas lu le livre et ne connaissent pas cette Caroline, on va commencer par elle. La spécificité de Caroline, c'est que tout le monde yeux sur elle, et parce qu'elle a des jupes plutôt raccourcies.
Bien sûr.
Elle fait tourner les têtes des équipes.
Voilà, puis avec une petite blouse bien échancrée. Enfin bon, c'est pas désagréable, qu'est-ce que vous voulez, il y a des compensations.
En même temps, docteur, c'est le fantasme de l'infirmière.
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Attendez.
Les infirmières sont à la fois instruites, intelligentes et charmantes.
Exactement. Alors dans l'équipe, je vais vous dire sincèrement, parce qu'il y en a un en particulier, un personnage, je me suis demandé plusieurs fois si c'était pas vous.
Lequel?
Joël Appert.
Alors, Joël Appert, oui, oui, c'est un peu moi. Et alors, mon frère qui me connaît bien me disait que en fait, c'est l'anesthésiste qui ah non, c'est dans un autre bouquin que j'ai écrit. Non, où c'est l'anesthésiste qui finalement a le dernier mot. Oui, Joël Appert, oui, c'est un peu moi.
C'est
oui,
un peu vous, Joël Appert. Hein.
Oui, oui, tout
donc,
à fait.
Lui
oui.
aussi, enfin, et ouais, enfin, en tout cas, vous vous êtes servi de votre expérience pour décrire ce personnage. Donc, il fait partie de l'équipe du SAMU, Joël Appert. Il donne également des cours à la Sorbonne.
Il prend des cours.
Il suit des cours à la Sorbonne. Oui. Il y a un autre médecin qui s'appelle David Panelier.
Oui.
Il y a la standardiste, hein, qui est là
oui.
aussi. Il y a Charlotte.
Charlotte,
infirmière anesthésiste qui s'appelle Sylvie Claret.
Voilà, oui.
Et puis,
oui.
Il y a Marc et Jean-Pierre, les brancardiers.
Voilà, parce que les chauffeurs et les brancardiers, dans l'équipe des SAMU, enfin, je décris une équipe telle qu'elle y était il y a quand même il y a une trentaine d'années.
C'est plus comme ça maintenant
Je ne peux pas vous dire parce que j'ai cessé de fréquenter le SAMU. J'étais longtemps attaché vacataire. J'ai fait beaucoup de gardes de régulation. Mais maintenant, je pense que vous êtes à peu près pareil. Mmh. Mais en tout cas, on a toujours beaucoup de travailler en commun et beaucoup d'amitié entre chauffeurs, brancardiers, infirmières. Tout le monde travaille en pleine coopération.
Oui, alors c'est ça qui est absolument génial. C'est-à-dire qu'avant d'être appelé, avant qu'on fasse appel au SAMU et que le SAMU intervienne sur des cas parfois difficiles, il y a cette espèce, c'est une vraie famille, hein, c'est une communauté. Hein.
Vous savez, c'est un petit peu l'anesthésie et la réanimation, c'est un peu comme la médecine de guerre. Et quand on se retrouve entre anesthésistes, on raconte nos histoires. Enfin, tous les médecins racontent leurs histoires de chasse, ça c'est bien connu.
Ouais.
Mais en anesthésie, parce que c'est l'anesthésiste qui a le patient, la vie du patient entre les mains. Et c'est moins fort que quand on est évidemment sur le champ de bataille. Mais enfin, quoique Dominique Larrey y allait bien souvent dans le champ de bataille, on en parle beaucoup en ce moment, ouais, de ce brave Larrey.
Absolument.
Et c'est un petit peu ça, on n'a pas le temps. Ce qui est agréable, j'ai beaucoup aimé la médecine générale aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais la médecine générale, on a quand même plus de temps pour réfléchir, pour faire un diagnostic. Et là, il faut agir vite, très vite.
Ouais. C'est ça l'intervention du SAMU et la réalité des faits quand on se retrouve sur le terrain. Donc dans votre livre, on vous décrivait très très bien l'avant, le pendant et l'après intervention. Ça c'est hyper important parce que il y a ce côté un petit peu fantasque où on rigole, les équipes de temps en temps se taquinent, il y a ces relations hommes-femmes. Donc avant d'être des médecins, ce sont des êtres humains aussi.
Oui.
Donc il y a la réalité de la vie. Et puis alors il y a cette histoire et la première que j'ai choisie, que j'aimerais que vous puissiez nous raconter, c'est ce premier voyage dans le temps. En Égypte. Alors, vous allez écouter l'histoire parce que il faut bien se mettre dans la peau. Je vous demande vraiment de suivre parce que parfois, je vous dis que c'est un petit peu compliqué. On est au fin juillet précisément et le SAMU reçoit un courrier en leur disant vous devez aller intervenir en Égypte.
Voilà, oui.
À Alexandrie précisément.
C'est ça, oui, oui, oui.
C'est ça, hein.
Vous me dites
si je me trompe, hein.
Oui, oui.
Et on le demande à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, quel est le problème? Et on dit au SAMU aujourd'hui en 2014, vous allez intervenir à la demande de Cléopâtre, la grande reine de l'Égypte. Imaginez le voyage dans le temps. Alors l'équipe part effectivement pour aller soutenir Cléopâtre, que l'on dit blessée. C'est ça?
Pas au départ, non, vraiment. Au départ, enfin, ils partent pour se perfectionner, pour aller étudier sur place et éventuellement importer, si je puis dire, l'idée du SAMU en Égypte.
Hein. Ouais.
Et c'est quand ils sont là-bas
qu'on leur dit qu'il faut qu'ils interviennent.
Ouais. Oui, parce que ça va mal. Il y a Octave qui deviendra ensuite l'empereur Auguste, qui assiège Alexandrie.
Et alors, ce qu'on découvre, c'est l'histoire entre ce fameux Antoine et Cléopâtre. Et là, il y a une espèce de pataquès incroyable, c'est-à-dire que l'un se fait quasiment harakiri, pensant que sa reine et son amour est décédé, et du coup, comme il se fait harakiri, cette fameuse reine Cléopâtre, dans votre histoire, décide de se suicider avec une morsure de serpent.
Enfin, c'est... Oui, ah, mais ça, c'est attention, c'est l'histoire, c'est parfaitement exact.
Oui,
hein.
D'accord.
En fait, c'est pas tellement parce qu'il s'est suicidé, c'est pas tellement par amour que... C'est vrai que... Marc-Antoine a cru que Cléopâtre s'était donné la mort,
oui.
Ou on le lui a fait croire, et il s'est passé le glaive donc dans l'abdomen.
Absolument.
Mais Cléopâtre, elle s'était réfugiée dans ce qui devait être son tombeau, mais qui était un tombeau fortifié, avec ses trésors, pour pouvoir négocier avec Octave, qui allait pénétrer d'un moment à l'autre dans Alexandrie. Et donc, c'était pas tellement le sort d'Octave qui chagrinait Cléopâtre. C'est que elle savait qu'elle allait être vaincue.
Et alors, est-ce que elle décide de se suicider avec cette morsure de serpent ?
Alors, pas tout de suite. Il y a une histoire absolument incroyable, mais on le trouve dans Plutarque, évidemment, et puis dans Diogène Laërce, etc. L'histoire de Cléopâtre, ce qui est extraordinaire, c'est que Cléopâtre s'était réfugié dans ce tombeau fortifié, et c'est un envoyé d'Octave qui est venu discuter avec elle, jouant le rôle d'un plénipotentiaire. Et pendant ce temps, il a détourné son attention, escaladé la muraille, et elle a été prise vivante. Mais ensuite, elle a été ramenée dans son palais, et dans son palais, elle savait que le sort qui l'attendait, c'était de paraître au triomphe, comme chaque général romain vainqueur. Et alors, elle s'est suicidée, mais on ne sait pas comment exactement. L'une morsure de serpent, à l'heure actuelle, ce n'est pas très vraisemblable, mais vraisemblable, elle maniait très bien les poisons, elle s'est vraisemblablement empoisonnée. Mais alors, ce qu'il y a d'amusant, je m'excuse,
allez-y.
C'est que, pour la petite histoire, j'ai travaillé beaucoup en banlieue parisienne, et les morsures de vipères, et il n'y en a pas beaucoup. J'en avais jamais vu,
ouais.
De morsures.
Ouais.
Des vipères, oui, mais loin, dans le Lot, justement, tiens, dans le sud-ouest, dans la région toulousaine, quelquefois. Mais donc, j'ai dit, je vais me renseigner, et je suis allé à Fernand Vidal. Et à Fernand Vidal, je me suis présenté, je dis, voilà, je travaille sur les morsures de vipères, et précisément sur Cléopâtre. Alors, ce qu'il y a bien, voyez-vous, en médecine, c'est qu'on ne s'étonne de rien. J'avais pensé que le chef de clinique ou l'interne de garde dirait, attendons, excusez-moi, mais ça va pas, Cléopâtre, elle est morte, ça fait longtemps. Ah, il m'a dit, vous travaillez sur très, très, très bien, oui, Cléopâtre. Ah, ben, vous tombez bien. On a justement un monsieur qui travaillait dans un laboratoire où il y a des serpents, et qui s'est fait piquer par une vipère. Il connaît la question à fond, eh bien, vous allez aller avec lui, il va beaucoup mieux, et comme ça vous verrez bien. Alors j'ai vu ce monsieur, j'ai passé toute l'après-midi avec lui, et j'ai compris qu'en tout cas c'est sûrement pas une vipère qui avait mordu Cléopâtre.
Voilà, alors ça c'est tout le détail dans ce chapitre sur Alexandrie, Cléopâtre, Antoine, etc. est très bien décrit. L'intervention en 2014 du SAMU sur Cléopâtre et sur ce fameux Antoine qui s'est fait transpercer par son épée. Tout cela est parfaitement détaillé comme si on était précisément en 2014.
Hein. Oui, enfin oui, oui. Bien que je pense qu'à l'heure actuelle, on se transperce pas avec une épée. Mais
ça,
enfin...
c'est vrai, mais bon. Alors ça, c'est un exemple, on va marquer une pause, docteur. C'est un exemple dans le voyage dans le temps de cette fameuse équipe du SAMU. Pour le deuxième voyage que j'ai choisi, deuxième voyage dans le temps, on va pas dire de qui il s'agit, en tout cas de ce personnage historique. On va essayer au fur et à mesure de faire comprendre à ceux et celles qui nous écoutent quelle est la personnalité que vous avez choisie et l'intervention du SAMU qui remonte dans le temps pour retrouver quelqu'un que tout le monde connaît et peut-être même a suivi ses aventures à la télévision ou au cinéma. Tout de suite.
Marc Leval, la grande matinée Sud Radio.
Et un voyage dans le temps pour s'amuser, pour apprendre l'histoire également, avec une question en toile de fond simple. Et si le SAMU existait à l'époque des grands de ce monde ? Voilà, en tout cas tous ceux qui ont marqué l'histoire. C'est la question que s'est posée un docteur Jean-José Boutaric, qui est mon invité, sur l'antenne de Sud Radio jusqu'à 11h. Alors, l'histoire en s'amusant, on va pas dire... docteur, de qui il s'agit, quel est le personnage à découvrir, mais évidemment si je vous parle de Genève, vous allez tout de suite comprendre. Bien sûr. Alors, le principe de cet ouvrage, je le rappelle, l'histoire en s'amusant, il faut toujours garder en toile de fond qu'il y a donc une équipe du SAMU qui peut être appelée à n'importe quel moment, aussi bien en France, en Europe qu'à travers le monde, et le monde, on ira d'ailleurs outre-Atlantique et aux États-Unis tout à l'heure. Cette équipe du SAMU doit intervenir, et il s'avère qu'à chaque fois qu'elle intervient sur un site particulier, dans une situation particulière, c'est pour se retrouver face à quelqu'un qui, aujourd'hui, a fait l'histoire. C'est ça, hein, le résumé de votre livre.
Absolument, c'est tout à fait ça.
Alors, on est au cœur de cette équipe du SAMU, et le patron du SAMU propose, docteur, un échange hospitalier avec d'autres médecins et infirmières, direction Genève, et là, tout le monde va vouloir y aller.
Oui, c'est ça. C'est toujours intéressant de partir à l'étranger pour voir ce qui se passe chez le voisin.
Ce qui est incroyable dans votre livre, c'est que c'est hyper détaillé. Vous donnez la période, on est au mois de septembre. C'est très, très, très... C'est vraiment l'histoire. Et vous auriez pu schématiser en disant, voilà, ils vont à Genève, il se passe ça, clac, clac, clac. Non, là, on sent bien que vous décrivez l'endroit, les paysages, l'atmosphère, l'ambiance, la sonnerie de téléphone. Tout y est dans le détail, hein.
Oui, ben, de toute façon, à chaque fois, après, il y a un historien qui vient dire, ben oui, voilà comment ça s'est passé. Donc, je le situe toujours au lieu et la saison et au jour où ça s'est passé, bien sûr.
Alors, comme on le faisait à l'école, au collège ou au lycée, il y a des échanges avec le milieu hospitalier de Genève. On ne parle pas du SAMU à Genève, on parle du cardiomobile, hein.
C'est ça, oui. Enfin, à l'époque. Hein,
à l'époque, oui.
Ça remonte quand même à quelques années, déjà.
Alors, pourquoi et que va-t-il se passer? Vous savez, au lieu de me lancer dans l'explication, dans le début de l'explication, je vais vous laisser raconter cette histoire. Donc, vous l'avez compris, coup de téléphone, en tout cas, échange. Il faut que des médecins et infirmières de Genève viennent à Paris et inversement. Donc, qui part à Genève?
Ah ben donc c'est toujours l'équipe, la même équipe, parce qu'il se trouve par une coïncidence que c'est toujours les mêmes qui sont réunis et donc ils se connaissent bien, ils aiment bien travailler ensemble.
Alors ils partent, effectivement, ils prennent le TGV.
Oui. Ils prennent le TGV, ils arrivent à Genève, bon, ils travaillent comme d'habitude, alors ils regardent évidemment par les fenêtres de l'hôpital. Je ne sais pas très bien maintenant si l'hôpital actuel donne sur le lac, mais comme il y a des mélanges d'époque. Et puis on les appelle pour intervenir dans un hôtel sur les berges du lac.
Un magnifique palace même, hein, ça va.
Un palace. L'hôtel du Mont Blanc.
Oui, absolument.
Qui existe toujours d'ailleurs.
Et une femme a été victime d'une agression, on va dire, à l'arme blanche.
Voilà, c'est ça. Victime et donc ils vont faire ce qu'il faut, oui, pour la mettre, comme on disait dans l'armée, la mettre en condition d'évacuation. C'est un terme qui n'a pas été repris dans le civil, mais bref, il y a un terme beaucoup moins joli qui s'appelle techniquer. Oui. Moi, j'aimais bien mise en condition d'évacuation, mais c'était un peu plus long.
Donc ils vont intervenir et quand ils arrivent dans ce fameux palace absolument magnifique, déjà ils sont très très interloqués par justement la grandeur de ce palace, ces grands couloirs interminables avec ces colonnes magnifiques. Bref, ils sont pris professionnels, donc ils sont concentrés sur la personne qui est donc alitée, qui est assez grande, qui est d'un âge mûr, qui est plutôt mince et qui porte une robe noire.
Voilà, oui.
Et alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous dites qu'elle a une quarantaine d'années, mais en fait elle est beaucoup plus jeune. Elle fait beaucoup plus jeune, ou c'est l'inverse?
Elle fait plus jeune.
Elle
oui.
fait plus jeune, ouais.
En fait, elle est beaucoup plus âgée. Beaucoup plus âgée. Elle a 20 ans de plus qu'elle ne le paraît.
Qu'elle ne le paraît. Elle est magnifique, bien sûr. Elle est en état de choc, autant vous dire. Et alors, à un moment donné, il y a un des médecins réanimateurs qui demande si elle a mangé quelque chose.
Oui.
Et on lui répond, notre majesté ne mange pas.
Voilà, elle ne fait que boire du lait.
Et le fait d'entendre notre majesté, évidemment, on se pose tout de suite la question de savoir, mais qui est cette dame?
Ah oui, vous êtes très bon, hein, la présentation du suspense.
Oui, alors une dame grande, mince, en robe noire, elle a une sorte un petit décolleté parce que, en tout cas, la robe a été légèrement entrouverte, dégrafée, hein, pour essayer de voir la plaie, hein, puisqu'elle a été poignardée. Et votre majesté, elle a un épanchement péricardique résiduel, c'est ça?
Alors ça, évidemment, sur place, on ne le sait pas encore. Oui. Pour le savoir, il faut faire une échographie. En fait, enfin, je ne sais pas à quel moment vous voulez qu'on dise.
Allez-y.
En fait, donc, cette patiente avait été poignardée sur le quai par un anarchiste italien. Oui. Et le poignard, comme ensuite, mais hélas, l'autopsie à l'époque le montrera, s'était fiché. avait quand même fait une petite perforation ventriculaire, mais c'était fiché entre les deux ventricules. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le sang va s'épancher entre les deux feuillets du péricarde, et ça comprime le cœur, et finalement, le cœur, évidemment, ne peut plus assurer sa fonction, et puis ça saigne, et puis bon, donc c'est la mort dans les...
Quelques minutes.
Ou l'heure qui suit.
Ou l'heure qui suit, oui. Alors, ils vont être interloqués par le majesté en question.
Alors oui, quand vous savez, on est prêt à tout. Hein. On envoie toutes les couleurs. Alors oui, mais enfin quand même, on dit tiens, majesté, oui, c'est ça. Oui.
Et alors ensuite.
C'est quand même rare qu'on soit appelé auprès des grands de ce monde. Enfin, absolument. Ça leur arrive aussi, hein, c'est comme tout le monde. Hein.
Et alors donc, cette fameuse majesté, c'est tout simplement celle que l'on connaîtra sous le nom de Sissi Impératrice.
Voilà. C'était Sissi Impératrice, voilà. Qui avait en fait la soixantaine, ouais. Et qui, écœurée, oui, par la politique et par l'incompréhension qu'elle rencontrait à la cour d'Autriche, voyageait beaucoup et aimait beaucoup aller, notamment à Genève. Elle fréquentait la baronne de Rothschild.
Alors le SAMU quand même va sauver Sissi Impératrice.
Alors le SAMU, il fait ce qu'il fait toujours comme d'habitude, donc perfusion, intubation, il la transporte en chirurgie cardiaque, et là on fait l'intervention, on s'aperçoit qu'il y a un hémopéricarde, c'est-à-dire un épanchement de sang dans le péricarde, et tout est drainé, suturé, etc. Et l'impératrice Sissi, pourra encore couler de longs jours.
Ce qui est extraordinaire avec la littérature, c'est qu'on peut effectivement s'offrir le luxe de sauver qui on veut dans le monde.
L'histoire,
en s'amusant, on va évoquer une dernière histoire dans un instant avec Jean-José Boutaric. Nous irons aux États-Unis, docteur. Bon, vous voyez tout de suite de qui je veux parler.
Hein, oui, bien sûr.
Allez, à tout de suite, une pause.
La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre.
Alors l'esprit libre, l'esprit ouvert pour se plonger dans ce voyage dans le temps avec l'intervention des équipes du SAMU que l'on connaît tous. Hein. Vous avez vu les camions, vous avez vu les services d'urgence, évidemment le travail remarquable que font les médecins, anesthésistes, réanimateurs, les infirmières anesthésistes également et jusqu'au brancardier, jusqu'au chauffeur qui doit maîtriser pas mal de choses lorsqu'il s'agit d'intervenir sur des lieux précis. Alors c'est un voyage dans le temps parce que ce SAMU que nous connaissons aujourd'hui doit aller sur des lieux d'intervention. Et ce sont des voyages dans le temps. On parlait tout à l'heure d'un voyage avec Sissi Impératrice. Voilà. Alors le SAMU a donc sauvé, d'après le docteur Jean-José Boutaric, sauvé Sissi Impératrice. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis a sauvé Cléopâtre aussi. Voilà, Cléopâtre. Une histoire incroyable. Alors on aurait pu parler d'Henri IV. On aurait pu parler également de Socrate.
Il y en a 14.
De Charles VIII, etc. Mais oui. On va outre-Atlantique cette fois-ci, si vous le voulez bien, pour terminer l'émission, avec Joël. Donc moi, je dis que c'est vous, hein, je suis convaincu que c'est vous.
Joël, en partie,
voilà. Joël Appert, qui fait partie de la bande du SAMU, et qui va se retrouver aux États-Unis. Mais alors, la première chose, c'est qu'il y a une espèce de quiproquo, là aussi, entre le Canada, Québec et les États-Unis. Qu'est-ce qui lui arrive à ce fameux Joël ?
Écoutez, là, vous me posez une question, mais il y a... il va aux États-Unis. Ah oui, parce que... Oui, c'est une question, c'est ça, oui. Parce que... Oh, ça, c'est un... J'ai rajouté ça
pour... oui, mais ça complique encore plus l'histoire.
Oui, parce qu'il devait aller au Canada. Ça, c'est une histoire personnelle, c'est vrai, d'ailleurs.
Vous voyez que c'est vous.
oui, un peu à partie, parce que quand j'étais en troisième année d'anesthésie, l'année à la fin de laquelle on passe le diplôme, M. Huguenard m'avait proposé d'aller faire justement un stage au Québec.
Absolument.
Seulement, comme j'étais quand même marié avec des enfants, et aller au Québec, je risquais de ne pas pouvoir travailler suffisamment mon diplôme, ce qui fait que je suis resté en France. Autrement, j'aurais pu passer un an ou deux au Québec, à Québec même d'ailleurs, à l'hôpital Lanval, je crois. Et donc, j'y suis pas allé. Et finalement, donc, alors, c'est peut-être l'origine. Donc, il allait au Canada, il va donc aux États-Unis.
À Washington.
Washington, oui.
Et alors, il se balade donc un soir dans les rues. Mmh. Il se balade un soir et il arrive devant un fameux théâtre qui s'appelle le théâtre Ford. Et oui. Il y a devant ce théâtre une espèce d'attroupement, un effet de panique. Et un homme est évacué et il est étendu. Il ira dans l'immeuble d'en face. On va essayer immédiatement de le sauver. Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur ?
Eh ben, ce monsieur était au théâtre, très pris par une pièce de théâtre. Une pièce amusante, et il y a un sudiste qui très habilement a déjoué les services de protection et qui lui a tiré à bout portant dans le crâne.
Voilà, exactement. Vous parlez des sudistes parce qu'on est en pleine guerre de sécession aux États-Unis. Mmh. C'est la guerre entre le Nord et le Sud. Et ce fameux personnage que ne connaît pas encore ce Joël, qu'il n'a pas compris, hein, qui il était, il vient juste pour voir, pour se dire, tiens, c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de gens et qu'il y ait une espèce d'affolement comme ça, d'attroupement autour de ce personnage. Ben oui, parce que c'est le président des États-Unis de l'époque. C'est tout simplement Abraham Lincoln que le SAMU doit sauver.
Alors là, Abraham Lincoln, il est vraisemblable que même s'il avait été ranimé, il est mort dans la nuit, plusieurs heures plus tard, mais les dégâts cérébraux étaient considérables et il n'aurait pas été dans un état vraiment très brillant.
Ouais, il a pris une balle juste derrière l'oreille droite, hein, c'est
oui,
ça
oui, oui, qui a transfixiante, hein, qui a fait des dégâts considérables dans le cerveau.
Alors,
atteindre de centre vital.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que là aussi, c'est le réflexe du médecin, du médecin anesthésiste. C'est, il y a un blessé, qui que ce soit, j'interviens, il fait du bouche à bouche. Visiblement, dans votre histoire, les fonctions vitales ne sont pas touchées.
Si vous voulez, je veux dire, pas immédiatement, quoi.
Il va être évacué dans un hôpital, et alors il s'avère que comme c'est une personnalité, c'est le président des États-Unis de l'époque, il n'est pas dans le bon hôpital parce que les services de sécurité lui disent non, il ne doit pas être dans cet hosto, il doit aller ailleurs.
Alors ça, justement, ça m'a été demandé par des gens qui connaissaient bien les États-Unis et qui m'ont dit, quand j'étais en train d'écrire, parce que évidemment, tout ça, j'ai pris après des renseignements, des enquêtes pour savoir comment ça se passait, qui m'ont dit, surtout, n'oublie pas de mentionner qu'aux États-Unis, il faut justifier d'être assuré ou d'avoir les moyens de payer l'hôpital. Donc, j'ai rajouté ce petit épisode.
Ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que ce fameux Joël, donc ce médecin du SAMU, va suivre évidemment ce patient dans le premier hôpital. Au premier hôpital, on reconnaît tout de suite, bien sûr, le président des États-Unis et on lui dit oh, c'est le président. Et lui, il pense qu'il dit oui, mais enfin, vous savez, moi, tous les présidents des associations, je ne les connais pas tous.
Oui, à l'hôpital.
À l'hôpital.
C'est un peu pour faire rire le lecteur.
Évidemment. Alors, il va être transféré dans l'hôpital des personnalités, c'est le Water Reed Hospital,
voilà,
précisément, en service neurologique. Et vous dites que le service neurologique de cet hôpital est exceptionnel.
C'est la réputation qu'il a, oui. Mmh. Oui, oui.
Alors il va dans votre livre, il est quand même, il est sauvé, il va perdre un œil, il est sauvé tout de même. Hein.
Alors oui, je suis d'un tempérament optimiste.
Voilà.
Et c'est d'ailleurs ce que dit. Vous avez vu dans la préface, M. Huguenard dit la statistique est trop bonne parce que 14 sur 14,
c'est pas mal.
C'est rare qu'on ait évidemment des succès pareils, hélas. Ouais. Si voilà. On pouvait, mais c'est pas toujours possible.
En tout cas, voilà quelques histoires comme ça. Et puis pour terminer sur bien sûr Abraham Lincoln, il sera obligé d'arrêter bien sûr ses fonctions de président quand même.
Hein, quand ça, même. C'est quand même
la moindre des choses.
Choses,
voilà, exactement. Il y a plein d'histoires, il y a 14 histoires de personnalités comme ça. C'est très étonnant. Alors il y a, je le disais, cette fameuse première partie où on connaît les tenants et les aboutissants de la vie au cœur du SAMU. Il y a l'intervention du SAMU dans ce voyage dans le temps avec les personnalités, tout ce qu'on a pu décrire. Et puis il y a la vraie histoire tout de même, hein, notamment de Sissi, de Cléopâtre ou encore d'Abraham Lincoln, hein, parce que l'histoire est importante tout de même.
Oui, voilà, pour que les gens n'aient pas une connaissance farfelue de ce qui s'est passé, mais en fait, bien sûr, il y a toujours un historien qui intervient et dit voilà comment ça s'est passé. Ouais, je me suis bien amusé aussi avec Socrate et avec Aristote.
On aurait pu en parler, mais je laisse,
oui, mais voilà.
Je laisse à ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus de se plonger dans votre livre. L'histoire en s'amusant, c'est le docteur Jean-José Boutaric. Je voudrais vous remercier de nous avoir accordé quelques minutes pour nous expliquer la manière dont vous avez procédé pour écrire ce livre, docteur.
Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à votre émission.
Merci.
Et pour aussi votre excellente interview. C'était un vrai plaisir.
C'est partagé. Je vous souhaite une bonne journée, docteur.
Merci, vous également. À bientôt. Au revoir.